Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes au mercredi 23 octobre 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Nous sommes au troisième numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. La coordination de l'émission de ce jour, d'abord quand nous prenons la mise en onde est assurée par Kiki Sosa. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Loussou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Améro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous le savez très bien, vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Comme la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, et d'Afrique et aussi du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. L'équipe de mercredi est déjà en place. Basile Mignaké, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à nos fidèles.
Nous sommes en milieu de semaine.
Voilà. Oui, je pense qu'il y a de quoi. Surtout, je voudrais souhaiter bonne guérison à nos frères qui sont des patients. Allongés sur leur lit et à la quête de cette santé précieuse et donc tout nous veut de guérison et qu'ils se relèvent vite pour rejoindre leur famille pour que l'économie ou bien le développement du pays soit davantage boosté.
Et ça se comprend. Vous êtes directeur de publication du journal Santé Éducation. Quoi de plus normal quand même que vous parlez santé et aussi souhaiter un prompt guérison à ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux actuellement. Et c'est vrai, nous passons également par cette occasion pour souhaiter justement une prompt guérison à tous ceux qui sont souffrants actuellement et qui suivent alors l'émission Club de la Presse. SL Koudzounou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Je voudrais attirer l'attention de l'entreprise qui est en train de faire la route qui mène à Canal FM. Je n'ai pas pris le temps de bien observer tout à l'heure, mais force est de constater qu'il n'y a pas de panneau qui indique des travaux. C'est-à-dire, tu prends la route tout droit et de but en blanc, tu tombes sur des barrières. Ça peut causer des accidents si tu ne sais pas t'y prendre. Donc, il est souhaitable qu'on mette juste des panneaux de déviation ou indiquant un chantier pour que les usagers de cette route-là prennent les dispositions en virant vers la route principale. Donc, c'est ce que je voudrais dire en entrée en matière.
Vous avez raison, bien sûr, parce que nous avons évoqué ce sujet dans cette émission et je pense que nous en avons même fait tout un débat pour parler des panneaux de signalisation quand même qui devaient normalement être sur la pour indiquer que la route est barrée, puisque vous prenez la route et là, vous vous retrouvez devant des barrières. Ce n'est pas du tout normal. Et Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. Si vous permettez, moi je voulais avoir une pensée très pieuse et positive à l'endroit des FDS qui sont actuellement au front et qui luttent contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous savez, nous sommes malheureux, on peut dire, en paix, mais c'est eux qui insécurisent nos colos. Donc, bon, je crois pour les militants, on dit bon courage. Bon courage à tous ceux qui sont aujourd'hui à Kwendjale, au nord du pays.
Nous faisons également un clin d'œil à tous ces militaires qui sont au front. Tel que vous l'avez dit, celui-là qui a rejoint aussi l'équipe à l'heure de mercredi, c'est bien Justin Anani. Justin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers consoeurs, bonjour chers confrères également en studio, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
J'espère que tu vas bien.
Oui, je vais bien. Vous avez décidé maintenant de décaler peut-être ma position.
Sur... Tout à fait, nous l'avons décidé et c'est pour une bonne cause.
Tout à fait.
Voilà. Toujours commandant. Bonjour Bassi Saka.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Au rang grâce.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Le grade n'a pas changé quand même.
Pas encore. Ça va changer.
Mais ça prend du temps. Hein?
Mais ça doit prendre du temps. Là, déjà, ça prend du temps avant de changer.
Les gens ont fait du temps plus, c'est bon.
Oui, c'est bon, salut. Les gens ont fait 15 ans de service, ça garantit.
Ah bon?
Moi, j'ai voulu jusqu'au commandant. Quand
on prend peut-être le Mali, c'était vite passé là.
Ça prend du temps, c'est
on est maintenant en général.
Le temps que ça prend, c'est oui. Tout ça en train de bien arranger. Donc, il faut toujours patienter.
D'accord. Et je pense tout simplement que notre patience va donner justement un résultat probant. Et peut-être qu'on passerait même au maréchal en même temps. Merci beaucoup, ça fait plaisir, hein, ouais. Et cette ambiance même d'ailleurs du début de l'émission. Et voilà, nous allons commencer cette émission avec Santé Éducation. Basile, c'est vrai, vous êtes dans les kiosques, Santé Éducation est dans les kiosques hein, ce matin, et vous évoquez des sujets tout récemment. Vous avez eu même d'ailleurs une rencontre avec le nouveau ministre de la Santé, et vous avez titré sur le sujet bien sûr, professeur Daré, je trouve cette collaboration naturelle, je lis Santé Éducation, et c'est un travail de qualité qui se fait, c'est des propos même du ministre Tim Daré, et vous estimez même d'ailleurs que c'est une opportunité avec ce nouveau ministre, n'est-ce pas?
Oui, vous savez, nous avons par le passé de bonnes relations avec ce ministère, parce qu'on a eu à faire beaucoup d'activités, dont l'activité phare, MABES. C'est avec les départements du ministère de la Santé que nous conduisions ces activités-là. Et donc, le professeur Daré, vous savez que c'est le nouveau, c'est un jeune professeur. Il est doyen de la faculté et c'est quelqu'un de très respecté par ses pairs et très humble aussi. Donc... il a souhaité de nous rencontrer et puis de nous apprécier d'abord la qualité du travail qui est faite. Et vous savez que c'est un professeur, donc c'est un enseignant. Il dit qu'il lit très souvent Santé Éducation. Donc ce côté humble nous a vraiment surpris parce que bien avant lui, on connaît certains professeurs qui ont des appréciations, pas tout à fait ça, parce qu'ils se disent qu'ils sont déjà enseignants, ils ont toute cette connaissance, mais lui, il dit que vraiment, il nous lit, il nous suit, donc c'était une opportunité de nous relever cet aspect du travail qui a été fait. Et donc, pour Santé Éducation, c'était bien d'aller, de lui présenter nos civilités hein, à ce nouveau poste, et puis le rassurer que Santé Éducation étant le seul outil d'information en matière de santé dans l'espace francophone, lui exprimer toute notre abnégation à travailler à ses côtés et à relever ces défis. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'il est là, il y a eu une panoplie de communiqués qu'il fait sortir pour recadrer les uns les autres dans la profession. Donc, je pense que on est parti le chercher parce qu'il est efficace, il est bon, c'est un bon leader, et c'est aussi un bon manager.
Il a beaucoup de défis à relever. Hein?
Évidemment, raison pour laquelle j'ai dit que c'est avec ses communiqués qu'il sort, parce qu'il veut donner le pouvoir à la hiérarchie. Il a parlé de la hiérarchisation des choses. Et puis, il a dit qu'il faut que l'approche contractuelle soit auditée pour qu'on ait des résultats, pour voir si, quels sont les manquements, comment est-ce qu'on peut encore trouver les voies et moyens pour, au finish, c'est que lorsque nous, les Togolais, nous allons dans les hôpitaux, dans les centres de formation sanitaire, c'est pour avoir de la santé. Et il a parlé aussi de l'accueil. Parce que lorsqu'on dit que centre hospitalier, où on offre quoi? De l'hospitalité. Hein? C'est l'accueil. Lorsque l'accueil est bien fait, le patient à 60% retrouve sa santé. Et donc, il y a des choses sur lesquelles lui et puis l'équipe qui l'entoure vont vraiment travailler pour offrir vraiment cette hospitalité aux patients, aux accompagnants, pour que nous tous, nous soyons bienveillants par rapport à cette émission.
Tout à fait, Basile. Et c'est vrai que tout récemment, nous avons parlé dans cette émission de ce trafic alors de postes de sang, ce problème de trafic, bien sûr. Et on a vu la promptitude alors du ministre, de décision même d'ailleurs du ministre. Et rapidement, il a pris une décision concernant cela pour mettre en garde les contrevenants.
Tout à fait, parce que lorsque l'information est publiée par une organisation non gouvernementale.
C'est OPS.
Voilà. Il a pris ce problème à bras le corps. Il a interpellé les responsables, les différents responsables de ce département pour voir ce qui a pu, surtout de prendre des décisions pour rassurer les patients et ceux qui aussi les donneurs du sang, que leur sang est bien protégé et les patients aussi sont bien servis. Vous n'êtes pas sans savoir s'il y a sur le toit actuellement, il y a don d'organes qui est un peu qui a été émaillé par le VIH SIDA au Brésil actuellement. Il y a un sujet de l'heure où ça ébranle même le chef de l'État Lula, le président Lula a allé sur les créneaux puis a interpellé les gens et on dit que c'est un cas rare, que c'est une première fois, mais cela ne veut pas dire que on ne va pas chercher les coupables vraiment pour que ces choses-là n'arrivent pas. Et donc le ministre a pris ce problème, cette problématique à bras le corps pour rassurer les uns les autres. Et je pense que c'est bon pour nous.
D'accord. Vas-y, vous vous intéressez aussi au paludisme et vous parlez de l'éradication alors du paludisme. Vous écrivez « L'Égypte a éradiqué le paludisme, le cas du Togo ». Vous vous interrogez.
Oui. Parce que j'ai eu à dire ici que l'Angleterre a éradiqué le paludisme, c'était en 1921. Et les États-Unis, c'est dans les années 50. Et c'est maintenant que l'Égypte, après un siècle de bataille, de rude bataille, et c'est maintenant que l'Égypte a été certifiée pour l'éradication de cette maladie. Et donc, c'est un problème, c'est un problème à quatre niveaux. D'abord, qu'est-ce qui va faire qu'on aura à éradiquer cette maladie endémique? D'abord, il faut former correctement le personnel. Il faut qu'on ait des spécialistes pour cette pathologie qui date, c'est le premier programme même du Togo. Lorsque sur une quarantaine, c'était le tout premier. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous voyez. Donc, il faut aussi une vraie politique de la mise en œuvre. Il faut une vraie politique, pas une politique de la main, une vraie politique de la mise en œuvre. Mettre en place une lutte anti-vectorielle. Parce qu'il y a eu un temps, on a fait, mais on n'a pas abouti. Ça s'est arrêté à quelque part et jusqu'à présent. Et en dernière position, il faut une approche multisectorielle. Ce n'est pas seul le ministère de la Santé. Il faut le ministère de l'Économie, de l'Agriculture, des Mines, tout ça là. Donc il faut cette synergie d'action pour faire asseoir vraiment les bases réelles pour éradiquer le paludisme. Lorsqu'on dit qu'on a éradiqué une maladie, c'est que sur 3 ans, on n'a pas enregistré un cas. Et vous voyez. Donc, vous voyez, si même en France, si quelqu'un a le paludisme, c'est que la personne vient d'un pays tropical.
Tout à fait. Hein?
Donc, il n'y a pas de paludisme en France. Il n'y a pas de paludisme aux États-Unis. En Angleterre, il n'y a pas. Lorsque vous passez toute votre vie, vous n'aurez jamais de paludisme. Et vous voyez. Donc, il faudrait que nos dirigeants, ceux qui ont la gestion de cette maladie, réfléchissent pour qu'un jour qu'on puisse éradiquer, parce que c'est la vie des enfants qui part, c'est la vie des mamans enceintes. Hein? Ces deux couches-là font que Il y a des problèmes.
Basile, c'est vrai que octobre tire vers sa fin et on sait que octobre, ça nous rappelle toujours octobre rouge qui consiste à faire la lutte contre le cancer, les cancers alors chez la femme et notamment le cancer du sein. Et vous écrivez octobre rouge, où en sommes-nous? Ou que retenir?
Oui, c'est-à-dire que si on prend l'octobre rose, parce qu'il y a eu vraiment des manifestations, il y a eu des activités, mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans cet octobre rose-là? D'abord, il faut dépister. Le dépistage, on doit le dire chaque jour. Le dépistage, ce n'est pas que lorsque vous aurez la maladie que vous allez vous dépister, non. C'est que lorsque vous êtes bien portant, hein, je parle de la gente féminine, lorsque la fille et la femme est bien portante, qu'elle pourra faire le dépistage. Et vous voyez, surtout nos filles et nos sœurs, nos tantes, il faudrait qu'on partage ces informations dans la famille, dans les communautés. De deux, il faut aussi des jeunes dames à partir de la quarantaine. Il faut aller consulter. Il y a ce qu'on demande, la mammographie. Voir une sage-femme ou bien un médecin gynécologue pour que tu puisses avoir vraiment cette opportunité de faire le dépistage. Et en troisième position, il faut les femmes ménopausées. Parce que lorsqu'on dit femme ménopausée, c'est l'arrêt des règles, des menstrues. Donc, on demande à ces femmes de faire au moins une mammographie une fois tous les deux ans pour se prendre en charge, pour dans le domaine de se dépister. Donc, on a eu cette confirmation auprès de Dr Eugénie Nancy, hein, Ndangue, hein, Ntom. Vous avez, c'est une Camerounaise. Elle est chef service d'oncologie de Douala. Donc, c'est elle qui apporte cette information. Surtout pour les jeunes filles, c'est 4 à 5 jours après avoir fait les menstrues. Ce n'est pas que lorsque tu te lèves, chaque temps que tu t'es sans, non. C'est que à 4 à 5 jours après les menstrues, que tu peux faire cela, tu peux voir s'il y a
l'autopalpation.
Voilà, il y a quelque chose, tout ça là. Donc, d'accord. L'autopalpation est indispensable.
D'accord. Ça. Alors, vous vous intéressez aussi à la fatigue. Vous écrivez 4 recettes naturelles anti-fatigue. Donc, vous nous proposez 4 recettes qui peuvent nous amener à lutter contre la fatigue.
Oui, ici, on va seulement que parler d'une seule pratique, d'une seule méthode. Les trois autres, là, nos lecteurs vont découvrir ça. Donc, c'est de dire aux uns, aux autres, qu'après quelques jours, on peut avoir vraiment ce souci de fatigue. Qu'est-ce qui a pu engendrer la fatigue? Mais au-delà de 3 semaines, il faut aller se faire consulter. Peut-être que ça peut être un symptôme, hein, d'une maladie, hein, d'un problème psychologique, et d'une carence en vitamines ou en sels minéraux ou d'un problème émanant d'un effet secondaire d'une maladie. Donc, on peut trouver la fatigue dans ces situations. Mais au-delà, si c'est réel, on a le basilic. Vous connaissez le basilic? C'est-à-dire que son nom scientifique, on peut mystifier nos fidèles auditeurs, on peut le mystifier avec votre complicité. Hein? Le nom scientifique, c'est Osimum gratissimum. Est-ce que vous voyez? Donc, on voit, c'est le nom scientifique.
Voilà,
quand même. Voilà, on appelle ça ESO. Hein, on fait une.
ESO.
En pays Kabyle, on dit ASEO. Donc, je pense que nous avons ça, hein, nous avons ça sur nos marchés et tout ce que nous présentons, vous savez, Santé Éducation, c'est un média panafricain. Donc, on dit ce qui est africain, purement africain. Et donc, on peut trouver ça sur les marchés, hein, à 50 francs, à 100 francs. On fait une déconnexion et puis on prend, je pense que on est sous.
D'accord. Alors, dernier sujet, Basile, c'est par rapport à certaines douleurs que nous avons. Il y a d'abord cette douleur musculaire. On parle de douleur musculaire au niveau de la poitrine et aussi douleur cardiaque. Est-ce qu'il y a une différence?
Vous savez, chaque 16 du mois d'octobre est consacré à la journée mondiale de douleur. Pascal, est-ce que vous avez senti une fois ce que c'est la douleur?
C'est naturel, on en sent.
Non, on traîne des douleurs chroniques qui, des fois même, amènent au suicide. La douleur chronique, ce qu'on appelle la douleur. Raison pour laquelle l'OMS a inscrit ça. Hein. Chaque 16 octobre, il faut retenir ça, la journée mondiale de lutte contre la douleur. Et donc ici, nous avons rencontré monsieur le docteur Paul Defoggi, qui est cardiologue au CHU Campus à Lomé, qui nous éclaircit sur ce phénomène afin d'apporter efficacement un traitement. Donc, ici, c'est d'amener les gens, surtout, à ne pas faire l'automédication. C'est très important. Lorsqu'on sent une douleur, on court vers la femme du coin, là, on lui dit, et puis elle fait sortir tout un... des cachets pas possible. Donc, cet article, il faut le lire, et nous avons un peu plus en bas touché une pathologie qu'on appelle l'arthrite. Hein, l'arthrite qui est une maladie dont le symptôme principal est l'inflammation des articulations. Donc, lorsque vous avez l'arthrite, ça se jaillit dans le corps, surtout dans les articulations. Et donc, c'est à cet effet que nous voulons proposer des recettes. Il y a des recettes pour surmonter ça. Hein. Nous avons ça dans nos marchés et à un prix accessible à tout le monde. Il ne faut pas que les gens restent dans leur bureau pour dire que non, l'hôpital est difficile, qu'on ne peut pas, et puis on attend. Lorsque là, on arrive à un stade où le médecin ne peut rien faire, qu'on se présente, je pense que c'est pas bien. D'accord. Donc, santé éducation par cette publication amène les gens à s'informer et puis à prendre la bonne
d'accord.
décision.
Merci beaucoup, Basile. Si nous voudrons avoir santé éducation paru aujourd'hui, quelles sont les conditions?
Non, le papier, c'est à 1000 francs comme d'habitude. Et l'achat sur le digital, c'est à 500. Donc, pour nous rejoindre, il faut nous appeler au 96 14 97 97 ou au 91 79 47 07. Donc, nous sommes joignables. On peut nous appeler, avoir des informations. Nous orientons aussi certains patients vers les spécialistes ou bien vers les formations sanitaires qui sont spécialisés pour une prise en charge efficace.
Merci beaucoup, Basile Vignaquet, directeur de publication du journal Santé Éducation, d'être passé dans cette émission. Ça nous intéresse beaucoup, cette chronique santé que nous animons chaque mercredi. Déjà dans cette émission Club de la Presse, nous faisons un clin d'œil à la technique et nous revenons juste après pour la suite du débat ici.
Le plaisir pour la guérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, chers confrères. Et nous revenons alors pour le débat en studio. Et Estelle, déjà le premier sujet, c'est ce sujet que nous trouvons justement à la une de votre journal Gazelle Info. Et vous écrivez « S'affaire les médias dans les méandres des postes de péage ». Refus par les banques des pièces et billets usagés collectés, appel à une réaction de la BCAO, nécessité de posséder alors sa juste monnaie pour une traversée rapide et fluide. C'est ce que vous écrivez ce matin à la une de votre journal.
Tout à fait. Il faut dire que la SAFER a organisé la semaine dernière une visite au niveau des postes de péage pour les professionnels des médias, histoire de s'enquérir de plus près, de voir de visu ce qui s'y passe pour vraiment traiter l'information, apporter la bonne information aux populations. Et on a été vraiment heureux de découvrir certaines choses qu'on ignorait. C'est vrai que dans la vie courante, on y était déjà confronté, notamment le refus des billets et pièces usagées qu'on voyait sur le marché aujourd'hui. Quand vous allez au niveau des bonnes dames, elles vont jusqu'à refuser même des pièces de 5 francs, 10 francs, 25 francs. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison tangible à avancer, mais quand tu analyses un peu, tu sens que c'est juste de la superstition. Maintenant, quand tu réanalyses un peu, tu vois certains, à certains carrefours, il y a des pièces de 100 francs également qui servent à ces cérémonies et tout ça. Mais pourquoi on ne refuse pas les pièces de 100 francs? Donc, parfois, tu vas au marché, tu as juste des pièces de 25 francs pour payer, il y a un problème de monnaie, tu leur prends ça, elles refusent. Donc, la SAFER aussi a déploré ce fait parce que aujourd'hui, la banque même refuse, en fait, les pièces et les billets usagés également.
Ah bon, ça se passe?
Si! C'est la SAFER qui a fait cette révélation. Quand les usagers de la route paient au péage et que les pièces sont un peu usées, les billets sont un peu mutilés, quand eux vont pour reverser au niveau des banques, la banque refuse de prendre également ces pièces et ces billets. Or, la BCAO avait déjà sorti en amont un communiqué qui interdisait le fait qu'on refuse les pièces et c'est même passible, en fait, de peine. Oui. Donc, sincèrement, on n'avait rien compris. Il y a de cela encore un an, si j'ai bonne mémoire, en marge d'une conférence de presse, c'était le ministre Yohadan qui était ministre de communication à l'époque, il est revenu encore sur cette décision de la BCAO et avait appelé à ce qu'on ne rejette pas des pièces de monnaie usées ou des billets usagés. Et au pire des cas, la BCAO devait remplacer ces monnaies-là quand on y va. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce soit au niveau des banques d'abord marché, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit même au niveau des banques, ces pièces sont rejetées. Donc, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Raison pour laquelle on a interpellé la BCAO à revenir sur cette décision-là. S'il faut maximiser la communication, la sensibilisation, pour expliquer ça, puisqu'on ne comprend pas le fait que la BCAO prenne une décision et que les banques même ne respectent pas cette décision. Donc, est-ce qu'on doit donner raison à ces bonnes femmes qui refusent parce qu'elles ne savent pas où reverser ces pièces-là? Donc, le débat est lancé, la question se pose pour nous. C'était vraiment important de discuter de ce sujet-là et d'alerter la BCAO et l'opinion publique là-dessus.
C'est vrai que il faut se trouver dans la situation avant de comprendre aussi la délicatesse même d'ailleurs de cette situation. C'est-à-dire, vous voulez acheter, on vous dit que non, la pièce est usée ou le billet est usé. Et de telle enseigne que, allez, finalement, vous ne pouvez même pas plus avoir ce que vous voulez acheter. Et au même moment, on dit que c'est, la banque également refuse cela.
Oui, je crois que ça sort maintenant de l'ordinaire. Nous avons fait un papier là-dessus, je crois, en début d'année. Et en revenant sur ce communiqué de la BCAO, et surtout sur cette appréhension des populations, surtout en ce qui concerne les pièces. Aujourd'hui, que ça soit limé ou non, il y a certaines pièces que les dames refusent systématiquement. Pièces de 5 francs, de 10 francs, de 25 francs ne passent plus parce qu'on se dit que bon, c'est pour des gens qui font des cérémonies et tout ça.
C'est superstitieux.
C'est superstitieux. Donc, une fois que tu intègres ça dans ta bourse, tu risques donc de ne plus rien comprendre du marché et tout. Et puis bon, tu peux même chuter, faire faillite du fait que tu as eu ces efforts-là. Et nous avons justement interpellé, puisque il fut un moment où, lorsqu'on refuse ces pièces-là, au niveau des marchés, vous allez au niveau des stations-service. Là, vous pouvez faire donc l'achat avec ça. Mais eux aussi, aujourd'hui, ils refusent ces pièces-là. Maintenant, à plus forte raison que ce soit même les banques qui refusent, je crois qu'il y a lieu que la banque, la BCAO, puisse situer les responsabilités. Moi, je crois qu'il arrivera au moment où on va donner le nom de ces banques-là. Parce que je ne conçois pas pourquoi c'est la banque, une banque peut refuser ces pièces limées. Parce que vous allez retourner tout cela à la BCAO. Voyez-vous, or, la BCAO a déjà sorti un communiqué de ne pas les refuser. Voyez-vous, donc, à un moment donné, on arrivera à donner le nom de certaines banques pour que on puisse régler, faire un recadrage au niveau de ces banques-là. Sinon, le problème est réel. Le problème est que ce soit limé, usé ou tout cela. Certaines pièces, 5 francs, 25 francs, ne sont plus. Vous ne pouvez même plus payer. Puis, on attend pas que c'est 25 francs, mais vous sortez 25 francs, on ne vend pas.
Et ça n'a pas de
vous
sens.
Voyez, donc, il faudrait véritablement qu'on puisse... Oh, ce sont quand même des dispositions. Il y a des dispositions qui pénalisent cela. Il y a des dispositions, vous refusez, qu'il y a altercation, mais du fait que vous avez juste refusé 5 francs ou 10 francs, vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux. Il y a des dispositions qui sont claires là-dessus. Mais bon, ça a pris du moins, tout le monde est dans le lot maintenant. Hein? Vous regardez un peu, surtout les billets, quand c'est un peu déchiré et tout ça, bon, on ne prend pas. Vous voyez, donc, il faudrait qu'on arrive à sortir. C'est ça, moi, c'est le pouvoir public qui doit véritablement communiquer sur cela. Et surtout sensibiliser les banques. Et puis bon, nous allons faire donc notre travail. Moi, quand je me pointe devant une banque et qu'ils refusent, demain, je viendrai donner le nom ici, ça c'est clair.
Mais est-ce que ça se comprend si déjà on envoie de l'argent ou bien je veux faire un dépôt peut-être à la banque et que finalement la banque refuse l'argent?
Non, rien ne l'explique. Rien ne l'explique parce que quand vous allez dans les pays voisins, ce phénomène n'existe pas. Vous allez au Ghana, le billet peut être tellement lié ou l'argent peut être tellement, la pièce peut être tellement liée, mais vous l'utilisez. Et malheureusement, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre pays. Le phénomène prend tellement de proportions, mais sans pour autant qu'on entende les autorités se prononcer sur la question. À Lomé, on en parlait, ça fait des années, mais progressivement, à l'intérieur du pays, le phénomène est réel. Et ça ne peut pas s'expliquer. Donc, si je crois que c'est la SAFE qui a fait la démarche maintenant pour expliquer comment ça se passe. Et on a eu à constater également au niveau du péage d'Anneron, il y a eu altercation entre les chauffeurs et les agents de l'autre côté là aussi. Et nous étions dans une émission sur la radio RTDS la fois dernière, un vieillard a débarqué. C'est parce qu'il n'a que, je crois, 100 francs ou 200 francs dans la poche. Il est parti payer sa bouillie avec du beignet. Et il a tendu sa pièce à la bonne dame, la bonne dame a refusé. Et le vieillard disait qu'il n'a que cette pièce-là. Donc il était obligé de venir nous voir en émission en direct, d'ailleurs, pour nous exposer le fait. On était obligé de dénoncer pour sensibiliser la population. Qu'en fait, en se donnant à ce genre de pratiques, on court une sanction. Parce qu'il y a quand même des mesures disciplinaires qui sont prévues lorsque vous refusez un billet de banque ou une pièce parce que sur la base des raisons peut-être inavouées, ça ne peut pas se comprendre. C'est là où moi je dis que ce n'est pas seulement la BCAO qui est interpellée, mais les pouvoirs publics aussi sont interpellés. Donc il a lieu de sensibiliser l'opinion sur ce phénomène et arriver à amener les gens à comprendre que c'est ce genre de pratique, cette façon de voir la superstition un peu partout pour dire voilà, donc une pièce de 10 francs ou 5 francs ou 25 francs, donc on peut plus l'utiliser, c'est parce que voilà, c'est donné à des fins sataniques, ainsi de suite, tel qu'on on le conçoit, je pense que ça pose le débat. Donc il va falloir véritablement que ces institutions-là soient vraiment interpellées, qu'elles puissent quand même intervenir dans le débat et éclairer l'opinion sur le phénomène.
Mmh. Alors, si tant est qu'il y a des dispositions qui sont prises pour sanctionner ce fait, comment se fait-il que ça se déroule et ça prend tellement d'ampleur maintenant dans la société?
Ça prend d'ampleur. Ce n'est pas nous qui fabriquons l'argent.
Tout à fait.
L'argent fabriqué par la BCAO. Et j'ai retrouvé la sortie de la BCAO. Tout refus d'acceptation d'un billet ou d'une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire dans un État membre de l'UEMOA constitue une infraction sanctionnée par les textes en vigueur. Aujourd'hui, tel que la SAFER a fait le constat, la SAFER devait donner le nom de ces banques-là. Comme Sylvain a dit qu'on va citer le CCM, on ne va pas attendre de les citer. C'est la BCAO qui fait les pièces et les billets et nous les utilisons. Et lorsque quelqu'un va dans la banque pour déposer l'argent, encore une institution, une société comme la SAFER, on dit non, que votre argent là, c'est limé, c'est fait ceci, bien sûr, fait cela, on ne peut pas l'accepter. Je pense qu'il faudrait qu'on les rappelle à l'ordre. La BCAO doit sévir. Il faut sanctionner ce genre de choses. Parce qu'on a cité les 5 pays de l'UEMOA où nous utilisons le CFA, les billets, les pièces là. On ne peut pas nous dire que lorsque nous allons acheter quelque chose ou nous allons déposer dans une banque, on va dire que ces pièces-là sont inacceptables. On ne peut pas nous dire ça. Ce n'est pas normal que ces banques-là réagissent de la sorte. Il est temps même qu'on donne leur nom et que la BCAO puisse prendre ses dispositions. Et les États membres de l'UEMOA aussi doivent agir dans cette situation. On ne peut pas attendre pour dire que c'est ça. Parce que des fois, tu vas attendre une pièce un billet de 500 francs à une dame. Et derrière le filet, tout le monde s'est dit que j'en ai ça beaucoup. J'en ai ça dans ma boîte là-bas que je n'arrive plus à utiliser. Pourquoi? Alors qu'il y a une sortie de la banque, de la BCAO qui a dit, les autorités même ont appuyé cette situation pour dire qu'on ne peut pas refuser de l'argent. Limé, quel que soit. Lorsque vous arrivez à la société pour payer vos factures et que vous donnez, on vous rend la monnaie avec des pièces de 5 francs. 10 francs et 25 francs. Est-ce que vous allez l'ajouter parce que on dit que c'est...
Même la pharmacie.
Même la pharmacie. Même les pharmacies.
Même la pharmacie, on vous donne ces pièces-là, c'est 5 francs, 10 francs. Est-ce que vous allez les refuser, vous allez les retourner? Donc je pense qu'il faudrait que ces banques-là qui font puissent être très conscientes.
Non seulement les banques, il y a aussi les agents des stations-service.
Oui, aujourd'hui, c'est à tous les niveaux.
Ils ont reçu des instructions. Mais il y a la dernière phrase du communiqué de la BCAO qui me fait un peu
rire. On peut aller remplacer les pièces
altérées. C'est-à-dire, la Banque centrale rappelle au public que les billets mutilés ou déchirés, ainsi que les pièces de monnaie lisses ou altérées, peuvent être échangées à ces guichets. Mais vous connaissez la BCAO.
Non, raison de plus que ça soit récupéré au niveau des banques qui vont faire, qui vont reverser ça. Donc c'est là où c'est curieux que la banque refuse également. Oui, c'est les banques qui doivent récupérer pour aller faire le change.
Normalement.
Oui, pour corroborer en fait les dispositions en cours dont parlait le doyen en basse, c'est pour le Togo, selon le code pénal togolais, en son article 1165, toute personne qui refuse de recevoir pour sa valeur officielle, la monnaie, qui n'est ni fausse ni altérée, ayant cours légal, peut être punie d'une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA. C'est ça la disposition en cours dans notre pays. Donc, sans que, s'il s'agit des pièces altérées ou des billets mutilés, comme le communiqué de la CDAO le dit, on reverse au niveau des banques et c'est les banques qui vont procéder au changement pour réintégrer dans le circuit la nouvelle pièce et le nouveau billet. Mais au niveau des bonnes dames, elles peuvent peut-être refuser ces pièces mutilées-là, mais les pièces de 5 francs, 10 francs, 25 francs qu'elles refusent, ça n'a vraiment pas de sens. Elles sont sous le coup de la loi, quoi, si on veut appliquer en fait cet article-là. Donc, il faut vraiment sensibiliser. Non, parfois, le plus embêtant, c'est que quand tu vas faire l'achat, elle n'a pas de monnaie, par exemple. Toi, tu as dans ta sacoche 10 pièces de 25 francs. Ça te fait 50 francs. Tu fais un achat de 50 francs, tu lui remets 100 francs. Elle te dit, je n'ai pas de monnaie. Donc, tu lui remets les 5 pièces de 10 francs. Elle dit, je ne prends pas. Elle ne te cherche pas le reliquat non plus. Mais sincèrement, ça devient très embêtant. Très, très, très embêtant. Non, il faut que les autorités, surtout la BCAO, je crois le problème est au niveau de la BCAO. Il faut qu'elle revienne en fait sur son communiqué, sensibilise et accentue en fait la communication, la sensibilisation.
Oui, Basile, vous voulez ajouter quelque chose?
Il faut qu'on revienne dans nos communautés, parce que c'est un débat communautaire. Vous savez, il y a des échanges qui se font déjà. Lorsque vous avez un billet, surtout, on parle des billets de 10 000 ou bien de 5 000, vous avez ces billets-là rimés qui sont
lisses ou
altérés. Il y a des gens qui sont là chez qui on fait ces échanges-là. Et vous voyez, vous avez 10 000, vous y arrivez, ils savent que vraiment c'est un bon billet. On vous donne 7 000. C'est-à-dire que 10 000, on vous retourne 7 000 ou bien 6 000.
Ah bon?
Est-ce que vous voyez?
Oui, donc c'est ce que
nous parlons.
Je dis qu'il faut qu'on ramène ce débat-là. Ça se fait. Mais les banques, ce qui est paradoxal, c'est que moi-même, j'ai été victime de ça. J'ai pris une somme importante que je ne pourrais pas compter là. Mais une fois que je suis rentré au bureau, j'ai commencé à mettre les choses sans. J'ai constaté qu'un billet n'est pas chaud dedans. Et je suis retourné, moi-même, je suis retourné chez la dame qui a la caisse. Elle m'a dit que non, que ce billet-là, que ce n'est pas ici qu'il est sorti.
Ah bon?
Que d'aller ailleurs. Et non, c'est que ça m'a blessé le jour-là et j'ai compris. Peut-être que, moi je dis, peut-être que ce n'est pas la faute à la banque. Il peut y avoir des personnes heureuses aussi qui peuvent glisser même ces billets-là dans ce qu'on met à leur disposition, à la caisse.
Mais si tant est que la banque refuse déjà...
La banque refuse.
Oui, je voulais revenir sur le jeune là de Bay, puisque j'en avais déjà parlé ici à la radio. Il y a un jeune qui est ici au niveau du marché de baie. Vous avez un billet donc de 5 000 qui est atterré ou déchiré. Vous arrivez, le jeune prend le billet, il vous remet un billet neuf. Et vous avez la moitié de ce que vous avez apporté. Ça, ici, c'est 5 000, vous prenez 2 500. Il garde votre argent, il garde l'argent, il garde le billet atterré. Il vous remet 2 500. Qu'est-ce que lui, le jeune, il est burkinabé. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit. Il va directement donc au Burkina Faso. Allez, échanger sa rame.
Oui, mais attention, en même temps, est-ce que ce lacisme-là de ne pas sévir par rapport à tous ces dysfonctionnements qui se passent au niveau des refus des pièces. Si le billet est altéré, est-ce que ça veut dire que le billet perd sa valeur?
Non, justement. Non.
Quand le billet est altéré, il ne perd pas sa valeur. La monnaie ne perd pas sa valeur. Oui, donc, excusez-moi, j'ai peut-être ça le mourir, mais c'est un peu de l'escroquerie sur la base parce que. Oui, parce qu'il n'y a pas de moyen, tu es obligé. Tu veux perdre en fait la moitié pour pouvoir gagner au moins la moitié. Au pire des cas, tu vas perdre.
Elle a fini. Non, en réalité, c'est pas de la. Le jeune fait du business.
Voilà.
Toi, tu as trouvé que l'argent est atterri, tu ne peux
moi,
pas.
Moi, c'est trop, la moitié.
Lui dit, prends. Vous avez combien? Vous avez 10 000. Le jeune, il prend les 10 000, vous remet 5 000. Neuf.
C'est trop.
Vous partez. Lui, il va échanger.
Je prendrai 2 000. Mais la moitié, j'estime que c'est un peu trop.
Ça, c'est le point des affaires.
C'est son business aussi. On va il est resté, il a imaginé cette situation. Il a vu qu'il y a du lacisme.
Et c'est son bizarre.
Voilà. Et lui, il a créé son business avec.
D'accord. Et il le fait. Si bien que les gens vont aussi lui rendre les billets atterrés, les pièces atterrées, qu'ils échangent à moitié et lui gagne son fait.
D'accord. Alors, quittons le sujet. On parlait tout de suite alors de Safer. Je ne sais pas si c'est Safer qui construit également les passerelles sur nos routes, parce qu'on est aujourd'hui sur nos routes, on voit quand même qu'il y a des passerelles sur ces routes, mais il y a certaines passerelles qui sont déjà finies, c'est-à-dire en terme alors de leur construction, et il y a d'autres également qui sont en construction quand on prend la passerelle alors de la Colombe de la Paix, tout près de nous, c'est en construction, et également au niveau d'Assigamé ou au niveau de la plage, bien sûr, à Gbavi, ou même aussi à Boudra fort, mais toujours est-il que pour ce qui concerne même surtout la pratique de ces passerelles, ça ne se voit pas en tant que tel. Des gens préfèrent plutôt alors prendre encore la route. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant un travail de sensibilisation?
Ah oui, pourquoi pas, mais permets-moi de faire une précision par rapport à l'attaque de ton sujet. La SAFER ne construit pas les routes en principe.
Tout à fait.
La SAFER collecte les fonds pour l'entretien de la route. Donc, tout ce que les gens payent au poste de péage, c'est reversé dans une banque et c'est le ministère des Travaux publics qui construit les routes. Les fonds collectés au niveau de la SAFER ne servent qu'à financer en fait ces travaux-là. Donc, la SAFER, le rôle principal de la SAFER, c'est de collecter juste les fonds qui financent l'entretien routier. C'est le ministère des Travaux publics qui construit les routes.
D'accord.
Maintenant, pour les passerelles, oui, la question, je crois que ça se comprend, c'est une nouvelle découverte pour nous. Ce n'était pas dans nos pratiques. Donc, ça n'a pas duré que les passerelles sont en train d'être construites sur nos routes. Du coup, on n'a pas encore pris goût à les pratiquer. Et en plus, c'est du sport, hein. C'est quand tu traverses une seule passerelle jusqu'à ce que tu ne descends de l'autre côté, tu transpires, c'est du vrai sport. Du coup, les gens sont... On est toujours conservateurs. La population togolaise est un peu conservatrice. On a un peu peur du choc, du changement ou du saut dans le lendemain et tout ça. Non, c'est la même analyse que je fais au niveau des passerelles. C'est vrai que d'autres ne sont pas encore ouvertes, mais pour celles qui sont déjà réceptionnées ouvertes, il est rare de voir l'affluence sur ces passerelles-là pendant qu'il y a le bouchon sur la route, même où naturellement les gens doivent avoir le réflexe de prendre ces passerelles pour vite atteindre la destination, mais on préfère se bousculer en fait dans l'embouteillage au lieu de les emprunter. Donc, est-ce qu'il faut engager encore une communication, une sensibilisation pour informer là-dessus? Pourquoi pas? Il y va de l'intérêt des populations nous-mêmes, mais si on n'a pas la pratique, il faut en parler pour les amener à comprendre les bien fondés d'abord de ces passerelles-là. Puisque parfois, ça évite aussi les accidents, hein, surtout quand il n'y a pas de passage côté pour les piétons et il y a de l'embouteillage. C'est beaucoup plus pour faciliter le déplacement des piétons. Mais comme on a l'habitude déjà de se faufiler, on a gardé ces mauvaises habitudes-là. Mais progressivement, avec la sensibilisation, je crois que ça devrait le faire.
D'accord. Et Sylvestre, quand on prend ces passerelles qui sont construite, je me dis que c'est de l'argent quand même qui est déversé là. Et donc, et pour la construction, bien sûr. Hein, et si la population ne pratique pas cela, ne traverse pas la route avec alors ces passerelles ou à travers ces passerelles, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner?
Non, écoutez, je crois qu'il y a un problème au niveau donc, de ces passerelles-là. vous avez les passerelles et en bas, vous n'avez pas de garde-fous. C'est-à-dire au niveau du terre-plein, il n'y a pas ces murs-là pour empêcher. Comment vous l'appelez? Oui, on peut les appeler les passerelles. Les garde-fous, c'est-à-dire on met souvent des murs, ou soit en plastique ou en béton, au milieu, pour éviter que les gens ne puissent traverser facilement. C'est-à-dire, vous voyez ici, à chaque fois, bon, peut-être vous allez au Ghana, à chaque fois qu'il y a passerelle, en bas, vous ne pouvez pas traverser, c'est parce qu'il y a des murs, parfois on érige des murs, ou des fers un peu élevés, au niveau du terre-plein, pour empêcher à ce que vous traversez par là. Vous êtes obligé, vous êtes contraint de prendre les passerelles. Mais s'il n'y a pas, vous prenez toutes les... Allez à Guo, vous allez voir, bon, c'est peu de gens prennent ça, parce qu'en bas, vous pouvez traverser facilement. S'il y avait ces bétons-là qu'on érige souvent au niveau du terre-plein...
Mais si l'État fait confiance aux populations en demandant, bon, je vous laisse traverser, est-ce qu'on doit les contraindre maintenant? L'État fait confiance aux juifs, donc il faut aller à la contrainte maintenant, peut-être.
Mais non, c'est parce qu'il n'y a pas ces bétons pour empêcher les gens à ce qu'ils puissent escalader ou tout ça. S'il y avait ça, ils seront contents de prendre la passerelle. Et je crois que vous allez au niveau d'Asigame, au niveau de l'ancien commissariat, mais il y a ces terre-pleins-là. Donc, il y a ces bétons-là. Donc, ils obligent maintenant les gens à prendre par la passerelle. Là, vous ne pouvez pas escalader, donc vous êtes obligé de prendre par la passerelle. Mais si vous prenez ici, au niveau donc, de Colombe de la Paix, il n'y a pas. Donc, bon, je crois que la passerelle aussi n'est pas encore...
C'est pas réceptionné.
Mais une fois que ça sera réceptionné, vous verrez que les gens vont toujours traverser. Parce qu'il n'y a pas ces garde-fous-là au niveau du terre-plein. Une fois qu'on aura ces garde-fous-là au niveau du terre-plein, ils sont obligés de prendre la passerelle. C'est ça. Ils trouvent peut-être ce qui est un peu plus facile, quoi, que de prendre par l'euro, c'est ça.
Juste, est-ce que ça veut dire, peut-être que, tel que Estelle le disait tout de suite, nous sommes réfractaires au changement et qu'on doit arriver à sensibiliser les uns les autres pour cela?
Bon, sensibilisation, il le faut, mais au même moment, il faut quand même aller dans le sens de la faisabilité. Pour les techniciens, comme Sylvestre venait de le dire,
je ne suis pas technicien.
Mais comme Sylvestre n'est pas technicien, mais ça s'observe.
Oui, ça
vous quittez Ouida pour aller à Cotonou. Il y a un marché là, c'est la zone dont j'ignore le nom, mais il y a quand même cette disposition-là sur le terre-plein. Donc,
au milieu,
il y a une barrière. Vous ne pouvez pas traverser. Donc, vous êtes obligé de contrôler parce que c'est le marché qui s'anime là. Et des dispositions sont prises. Je pense que les techniciens qui ont eu affaire à réaliser ces travaux doivent y penser quand même. Parce que non seulement l'occasion de sensibiliser, mais on vous dirait également qu'en Europe, tel que c'est conçu, c'est réalisé là, ce n'est pas le même cas ou les mêmes dimensions qu'en Europe. Parce qu'on tient compte également de la population vieille. Pour faire en sorte qu'il y a quand même des souterrains pour cette population-là. Mais pour les vieillards, monter là et continuer et descendre, ça pose problème. Donc, je pense que nous sommes en Afrique, bon, on fait avec la manière, mais il y a quand même des obligations qui n'en manquent pas. Et sur le plan technique, on doit quand même tenir compte pour faire ce genre de réalisation.
Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je pense que c'est pour éviter les accidents de circulation que ces passerelles-là sont construites. Et quand vous prenez ces... dans les lieux où l'agglomération est trop grande, surtout au niveau même des marchés que c'est construit. Pour, quand vous arrivez, lorsque vous êtes pressé et vous montez la passerelle, vous descendez par là, je pense que vous allez accéder que d'attendre pour traverser la route, surtout quand vous prenez la route de Togbekopé en allant à Ritikopé. Vous voyez les heures de pointe, les agglomérations qui sont dans les gros camions. Donc je pense que, comme Sylvestre l'a dit, il faut aussi mettre des barres là, ici, pour empêcher les gens d'aller. Parce que c'est pour sauver aussi la population qu'on a mis cette passerelle-là. Puisque les gens, quelqu'un va dire, va faire un stop, mais d'autres, les voitures vont se stopper, mais d'autres vont foncer sur la population. Donc, pour éviter ce genre de choses, on a décidé de mettre la passerelle là pour que ça sauve au moins les gens de ces accidents-là qu'on rencontre. Aujourd'hui, Peut-être que c'est les essais qu'ils sont en train de faire, mais par après, il y aura des garde-fous qui vont être pris pour empêcher que les gens prennent la route. Puisque aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le parc automobile devient grand. Lors de l'heure des descentes, lors de l'heure des allées au service de descente.
Grand et vieux.
Ouais. Donc là, non, mais c'est pas vieux, hein. Ça continue. Donc là, il y a des agglomérations et des gens, il faut prendre des dispositions afin que on n'ait pas de ces accidents. On vient, on va ramasser les gens. Lorsqu'on a fait la route Palimé, il faut aussi penser à ça au niveau du marché de Madiba, marché de Dougoumanaba, Sillé. Il faut penser. Là,
il y a souvent des accidents.
Il y a des accidents là-bas très graves parce que quand les jours du marché, c'est difficilement que les gens puissent arriver à traverser là-bas.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. Basile, un mot.
Oui, c'est pour dire que lorsque on prend ces décisions-là, ça génère quoi de l'activité. Hein? Ça génère de recrutement. Ce qui se passe là.
De l'emploi, vous voulez dire.
De l'emploi, bien évidemment. Il faut signer de petits contrats avec des associations, des ONG qui sont là pour sensibiliser la population. Ce que la population gagne en montant, comme ça veut dire, on utilise quoi ? Il y a de l'obésité, il y a l'obésité, hein, le surpoids des femmes. On leur dit que si vous faites aller-retour là, vous gagnez en quelque chose pour votre propre santé. Est-ce que vous voyez ? Donc, passez pas de ces petits créneaux, avoir des contrats avec des radios, hein, ici et là, pour leur dire le bien fondé, hein, de traverser, de prendre part à ces passerelles.
D'accord, c'est très important. Ok. Nous allons quitter le sujet. Hein. On s'intéresse maintenant à ce drame de Sagbado, l'effondrement alors de l'immeuble. Parce que, Sylvestre, vous êtes revenu sur le sujet. Vous écrivez « Drame de Sagbado ». Quelle est la responsabilité de la commune du Golfe 7 ? Vous vous interrogez. Il y a Abbas, vous êtes aussi revenu sur le sujet. Le Mania Libéré, vous écrivez l'effondrement d'un immeuble R+5 à Sagbado, le non-respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de construction à l'origine du drame. Le permis de construire, un document désormais facile à obtenir. Alors, Sylvestre, quand vous vous posez la question concernant surtout la responsabilité de la commune alors du Golfe 7, où est-ce que vous voulez en venir?
Oui, vous savez ce qui s'est passé la dernière fois, on aurait pu l'éviter si on était dans l'anticipation. Et cette anticipation, je crois que la commune du Golfe 7 était déjà dans cette logique, puisque déjà l'année dernière, je parle de 2023, au niveau donc d'un conseil municipal de cette commune, puisque nous avions eu à écouter un certain nombre donc de conseillers, hein, dans cette commune, déjà en 2023, ils avaient pris la décision. C'est un conseil qui avait même soulevé le sujet lors donc, du conseil. Et unanimement, ils ont pris la décision de, je dis bien, de démolir l'immeuble. C'était ce qui a été retenu.
Ah bon, la décision a été prise?
La décision a été prise déjà en 2023.
De démolir?
De démolir l'immeuble, c'est ce qui a été retenu. Et le conseil a instruit le bureau exécutif, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, de prendre toutes les dispositions pour démolir l'immeuble. C'est ce qui a été déjà pris en 2023. Et d'abord, ils ont déjà commencé en demandant d'abord l'arrêt des travaux. Vous avez vu même que sur les images, il y avait déjà l'arrêt des travaux. Et donc, après l'arrêt, la deuxième étape, c'est de démolir complètement l'immeuble. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui entre cette décision et ce que nous avons vu la dernière fois, qui a encore donné l'ordre de continuer, puisque à l'époque, il n'y avait même pas encore un étage en plus. Il n'y avait même pas un étage en plus. Et donc, au cours, selon donc nos informations, le conseil s'est déplacé il y a, je crois, le lundi surpassé, au niveau d'Akato, pour aller chercher un terrain, hein, pour un nouveau cimetière. Et en revenant, ils ont encore vu que l'immeuble est encore là. Et il y a l'un des conseillers qui posait la question à un agent au maire, pourquoi est-ce que l'immeuble est encore là, alors que la décision avait été déjà prise de le démolir. Et selon nos informations et la réponse que ce maire agent lui a donnée, c'est que le propriétaire leur a rassuré qu'ils ont mis des mesures correctives, ils ont mis des bouteilles et tout. Et le conseiller de répliquer, mais vous pensez que le bâtiment là que nous sommes en train de voir là peut tenir? Nous étions déjà au lundi, quelques jours après, patatras, nous avons connu le drame. Et
selon donc aussi le fonds, puisque nous avons eu aussi le service de communication donc de la mairie, qui nous disait qu'en réalité, quand le propriétaire avait pris la décision de corriger de ces mesures correctives-là, ils ont creusé autour de l'immeuble dans le but de renforcer les semelles. Comment est-ce que cet immeuble de 5 étages, c'est maintenant qu'on va creuser tout autour pour renforcer les semelles? Et malheureusement, avec les derniers plus à endommager, hein, donc les travaux, ils n'ont pas pu le faire à temps. C'est ce qui a d'ailleurs précipité l'effondrement de cet immeuble-là. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'aujourd'hui, la responsabilité de la mairie peut être l'assise. L'assise en ce sens que, déjà en 2023, l'année dernière, ils avaient pris la décision, tout le conseil avait pris la décision de démolir l'immeuble. Pourquoi de 2023 à octobre 2024, ils n'ont pas pu donc exécuter cette mission-là? Encore que nous avons appris que, bien avant, il y avait une mission avec même le corps des sapeurs-pompiers, le service technique donc, de la mairie, qui sont même allés sur le terrain. Donc, le but, c'est de tout démolir. Pourquoi est-ce que de 2023 à octobre 2024, on est resté jusqu'à octobre 2024 sous prétexte qu'on a mis des potelettes. Moi, je les appelle des potelettes. On a mis ce que nous avons vu là pour tenir l'immeuble. Et encore, de 2023 à octobre 2024, il y a encore un étage qu'on a encore mis en plus. Vous voyez, donc il y a un laxisme au niveau donc, de la mairie. Et cette mairie doit reconnaître qu'il y a un laxisme. Et on peut également lui imputer la responsabilité de ce qui s'est passé la dernière fois.
D'accord. Et est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a vraiment de laxisme au niveau de la mairie?
Oui, ne nous voilons pas la face. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Hein. Quand il s'agit de l'intérêt de la vie des populations, l'État doit appliquer sa force, la violence légitime dont il dispose en fait. Moi, la question que je me suis toujours posée depuis que le drame là est survenu la dernière fois, comment m'expliquer le fait que la mairie ait constaté qu'il y a un problème sur le chantier et que le chantier entre-temps a été arrêté et après les travaux reprennent et on observe personne ne pipe mou. C'est-à-dire, on sait qu'il y a danger. On est allé arrêter le chantier pour préserver la vie des populations. Et brusquement, le chantier reprend. On ne prend pas en considération l'alerte qui avait été donnée et tout le monde observe. On laisse faire. Jusqu'alors, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Quoi. On aurait pu arrêter. On n'a pas besoin d'être un ingénieur en bâtiment pour remarquer que l'édifice là ne tient pas. Il fallait voir les deux poteaux qui supportent en fait les quatre ou les cinq, les potelettes là, comme Sylvestre l'appelle. On n'a pas besoin d'être un ingénieur en bâtiment pour comprendre ça. La dalle au niveau du premier étage était déjà. Et permets-moi d'alerter en même temps par rapport à un même immeuble comme ça au niveau d'Avedi, non loin de la maison du chef. On a un immeuble pratiquement à 6 ou 7 niveaux, juste à côté de la maison du chef d'Avedi. Mais depuis là, c'est sur moins d'un quart, mais on élève. C'est aussi un danger. Donc, il faut déjà alerter pour ne pas vivre de tels drames à l'avenir.
Ok, Abbas, vous parlez plutôt alors du non-respect, alors scrupuleux des réglementations hein, qui est justement en vigueur en matière de construction alors, et qui est à l'origine alors de ce drame.
Oui, on ne peut pas se permettre d'ériger un tel immeuble. Rez-de-chaussée plus 5. Et ne pas prendre les dispositions pour respecter les tests qui respectent les constructions. C'est-à-dire avoir le permis de construire. Aller trouver un architecte pour qu'on étudie le sol pour voir si ça peut tenir. Mais vous n'avez pas fait toutes ces démarches-là. Les informations font état de ce que le monsieur n'a même pas obtenu de permis de construire.
Oui.
Il n'a même pas cherché à avoir un architecte pour qu'on étudie le sol. Si le sol peut tenir par rapport à ce bâtiment qu'il met en place. Mais il s'est permis de continuer. D'ailleurs, même là, la place là, on nous a dit que c'était un cimetière.
Un ancien cimetière
là. Et on lui a dit ça, il dit non, que lui va construire. Et il a construit sans respecter les normes. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a les conséquences. Les architectes, même le conseil de l'ONAT a réagi par rapport à ça. Et à interpeller les uns et les autres à ce que par rapport à ces genres de situations, il faudrait avoir l'assistance d'un architecte ou d'un topographe pour étudier le sol. On ne peut pas s'en tenir à son maçon. Là, le maçon dit, toi, tu fais un dessin depuis l'Europe, et tu viens présenter au maçon. Et le maçon dit quoi? Non, je peux faire ça. Sans étudier le sol, pour voir si le sol peut tenir. On a vu des bâtiments construits. Avant de faire ça, les gens mettent du béton en bas. Et
les semelles
pour tenir. Parce que tel étage, moi j'ai appelé ça gratte-ciel. Parce que ils voulaient voir le ciel.
Oui, mais je sais.
La construction d'un immeuble sur un terrain qui a abrité dans le temps un cimetière s'effondre. Bon, c'est un peu bizarre le titre d'un article, quoi.
Non, pas de lien automatique, hein, quand même, pas de lien automatique.
Mais bon, je pense que les autres ont dit l'essentiel. Seulement, j'aimerais toucher du doigt un certain nombre de faits qui, en réalité, ne respectent pas les pratiques dans notre pays et qui ne datent non plus d'aujourd'hui. Et Abba disait tout à l'heure que des immeubles de ce genre, il y en a plein dans la capitale, à Lomé ici. Mais je tire également l'attention de pouvoirs publics sur le bâtiment, l'immeuble là qui est déclaré immeuble à risque, la Lonato, l'ancienne Lonato sur le boulevard du 13 janvier.
Oui.
Maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour démolir ça? Donc, on attend que ça fasse encore des victimes, ça crée des dégâts avant de commencer par chercher les tenants et les aboutissants qui entourent cet immeuble-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, c'est là où moi je dis que quoi qu'on dise, la responsabilité de la commune du Golfe 7 est engagée. Au même titre que les décideurs de la République. Parce qu'en dehors du fait que le maire n'arrive pas à taper du poing sur la table, on ne me dira pas que depuis le temps que cela a duré, 2023 aujourd'hui, ou bien avant 2023, et aucune personnalité, aucune autorité de la République n'a fait cette remarque-là. Donc c'est comme si, quelque part, il y a les décideurs qui font ce qui leur passe par la tête aux grandes dames de ceux qui ont le pouvoir de décision. Donc c'est là où moi je dis qu'à un moment donné, c'est là le lieu quand même de sévir, il faut sévir.
D'accord, il faut sévir. Alors Sylvestre, Justin, je reste avec toi pour, c'est vrai, entre-temps, vous évoquiez même d'ailleurs cette situation de chefferie au niveau de Fiocondi dans les lacs. Et nous avons promis même d'ailleurs revenir sur le sujet. Je ne sais pas s'il y a du nouveau.
Oui, il y a du nouveau. Donc, on en parlait pratiquement, ça fait 2 semaines, on a touché le nœud du problème. Et en réalité, Fiocondi, c'est une localité située dans la préfecture des lacs, plus précisément dans le canton de Glédy aujourd'hui, puisqu'après, comment on appelle, découpage des élections locales que nous avons connues. Donc ce village dépendait dans le temps du canton d'Aklakou, donc qui travaillait sous la direction également du village d'Akita. Donc depuis toujours, il y a un problème de chefferie qui s'est passé. Depuis toujours, il est bien vrai que l'administration politique ne reconnaissait pas les chefs traditionnels à travers les arrêtés que nous avons aujourd'hui. Mais c'est la famille Tanlé qui a toujours dirigé, et le fondateur même de ce village, comme on a vu à le dire, donc avec les informations que nous avons grantées ici et là. Donc c'est la famille Tanlé toujours. Et le premier, c'était Tanlé Kofi Gan, donc le dernier récemment qui est parti avant que ce problème ne voit le jour, c'était Atanlé Aouyemi. Donc depuis sa disparition, il était question maintenant de chercher un autre. Maintenant, pratiquement, c'est la même famille, le problème qui se pose aujourd'hui. Mais il y a un des lignées, la dernière lignée qui a changé son patronyme, qui est devenu maintenant Gaosu, maintenant qui a fait des dossiers au même titre que les Atanlé, et que finalement, par magie, on ne sait pas comment ça s'est passé depuis 2010, que cette histoire a commencé au temps du ministre Pascal Bodjouna, le dossier des Atanlé a disparu. Et de rebondissement en rebondissement, le 28 septembre dernier, le préfet des lacs, Bénissant Tétébi Daté Norbert, a, dans son cabinet, attribué ou donné à remettre l'arrêté, reconnaissant le nouveau chef qui n'est autre qu'un certain Oba, comme l'a vu Gaosu Ier, et aux grandes dames de ce que la population ne maîtrise pas. Donc, il y a une contestation, on a adressé deux courriers au ministre de l'administration territoriale, au préfet, mais dans
dans le village aujourd'hui, la paix sociale ou la cohésion est menacée.
D'accord.
Donc il a fallu que les autorités puissent quand même revoir ce problème-là.
Justement, d'accord. On va revenir sur le sujet. On voit de près, même d'ailleurs, on suit de près alors cette situation. Alors, nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs qui, justement, s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat. C'est sur le 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour, comment vous allez Patrick?
Ça va bien chez vous.
Ça va aussi, pas la grâce.
Avant de revenir sur le sujet du jour-là, Pascal, ça m'étonne que tu n'es pas au courant que je suis le seul à donner de grade aux journalistes au Club de la Presse.
Ah bon, Patrick?
Oui.
Tu es le seul à donner de grade?
Oui, oui, aux journalistes au Club de la Presse.
Ah bon?
Et le seul commandant jusqu'alors, c'est Sass Gaou. Je ne sais pas comment ça s'est fait que tu donnes le galon là. Ah, Abbas, je n'ai pas compris.
Non, mais en fait, c'est Abbas est venu même au Club de la Presse avec ce galon.
Non. Ça passait par moi, bien sûr. C'est ça qui est commandant.
Mais
Abbas, c'est ça. Peut-être que, bon, je le donne capitaine.
Non, mais Abbas voilà. Dit que tu es plutôt jaloux alors de ses acquis.
Ok.
Vas-y, Patrick.
Alors, je veux revenir sur trois sujets.
Oui.
Le premier, vous savez, concernant les passerelles en question là,
oui.
La population étant ce qu'elle est, on a de différentes personnes. Il y a les vieillards, les personnes du troisième âge. Il y a les accidentés. Et il y a des handicapés. Un handicapé qui roule en fauteuil roulant, comment fera-t-il pour traverser? Un accidenté qui est sous plâtre, comment ferait-il pour monter la passerelle là? Et un vieillard qui a mal au genou, mais comment ferait-il pour monter ça? Voilà des interrogatoires. Le deuxième sujet, vous savez, pour le fameux bâtiment de Sagbadola, tout ce que la mairie dira présentement, on ne peut pas croire à ça. Pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. L'intéressé, le propriétaire n'est plus en vie, il est décédé. Donc, il n'y aura pas un débat contradictoire. Tout ce que la mairie dira, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la réalité? C'est vrai qu'on lui a dit de stopper tout ça. Comment ça s'est passé que le bâtiment a monté? Un, de deux. Vous savez, ce n'est pas un extraterrestre qui a émis le plan. C'est un maçon, le chef maçon. Heureusement, on ne nous a pas dit qu'il y a eu un décès d'un chef maçon ou bien celui qui a suivi le bâtiment. Mais on a qu'à l'interpeller. Interpeller le chef maçon, lui, même si le propriétaire dit que voilà, je veux que ce soit comme ça. Toi, le spécialiste, tu as accepté de construire ce bâtiment, mais tu es déjà en infraction. C'est anormal. Et pour finir, je ne sais pas comment je vais parler des pièces limées là. Bon, supposons que moi j'ai une pièce de 500 limés. Je m'avais mangé waté. Voilà que je finis de manger, je donne les 500 là. La dame me dit que c'est impossible qu'elle ne peut pas prendre la pièce là. Alors que c'est l'unique pièce. Je n'ai pas de billet. Comment résoudre ce problème? Merci.
Merci beaucoup Patrick pour votre intervention. Merci de nous avoir appelé et d'avoir donné aussi votre point de vue hein, sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Monsieur Gado.
Ah, monsieur Gado.
Oui.
Comment vous allez?
Ça va très bien.
D'accord, allez-y.
Je vais parler à propos des pièces limées.
Oui, allez-y.
Ce n'est pas la faute du Togo ni la BCAO. C'est la faute à notre colon pilleur, la France. Parce que pour changer ça, la BCAO doit payer des milliards. C'est ça le problème. Hein? La France nous donne des chiffons après un refus de nous remplacer ça. C'est la France. C'est donc pour l'immeuble effondré là. Le maire a failli. Il n'est pas trop regardant. Si c'est dans un pays, il va démissionner immédiatement. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Monsieur Gado, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Autre auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est Nestor.
Non, c'est Armand.
Ah, Armand plutôt.
Oui.
D'accord, allez-y.
J'aimerais parler des pièces de monnaie que d'antan, nos dames refusaient. Aujourd'hui, on peut dire que l'information que le plateau vient de nous donner concernant le refus des banques, on peut dire que ces banques donnent raison à ces dames. Parce que je ne peux pas comprendre comment une banque, une institution basée sur la monnaie ne peut pas comprendre le sens concret de la monnaie. C'est-à-dire la monnaie, c'est la valeur qu'on utilise. Et la monnaie appartient à la banque centrale, pas à l'individu. Aussi, pour revenir un tant soit peu sur une information de santé, aujourd'hui, sur certaines plateformes, on parle beaucoup du paracétamol et d'un produit dérivé, la doliprane. C'est bien démontré parce qu'aujourd'hui, ce produit paracétamol est interdit en Suède. Mais j'aimerais, je ne sais pas si le responsable de santé et éducation est encore avec vous.
Oui, il est toujours là.
Oui, qu'est-ce que nous, c'est-à-dire nos autorités sanitaires disent par rapport au paracétamol? Parce qu'on dit que c'est quasiment un poison.
D'accord.
Et surtout, la dernière information concernant les dames enceintes de garçons, de petits garçons, que ça féminise ces garçons. Bon, je ne sais pas, jusqu'à présent, on ne dit rien, mais il faut vraiment prendre le taureau par les cornes.
D'accord. Merci beaucoup, Armand. La question sera posée à Basile. Tout de suite, il sera à mesure de vous répondre. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, décidément, il n'est pas avec nous. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, c'est Joseph.
Ah, Joseph, vous nous appelez de quel quartier?
Oui, j'appelle de Diaglé.
De Diaglé.
Oui.
Allez-y.
J'appelle juste pour intervenir par rapport aux monnaies usées et faire une proposition. Il y a eu des émissions par rapport à ce sujet sur beaucoup d'antennes. Mais je crois que on peut avoir des points, instaurer des points d'échange. Je vais donner un exemple. Par exemple, à Diaglé, prenons la station Shell. Il y a supermarché Dauphine là. Mais on peut instaurer un point d'échange là-bas et placer quelqu'un, peut-être même un employé du supermarché. Ça pourrait faciliter la tâche, par exemple, à beaucoup de gens, les gens de Afrika, même, bref, tous les quartiers ou cantons qui entourent même Diaglé. Et si on essaie d'instaurer ces points d'échange un peu partout et que la BCAO y met un œil très regardant, je crois que ça pourrait faciliter la tâche. Parce que quand moi je prends ce trajet que je vais prendre, par exemple, Bernie chez la dame qui va, cette dame peut-être avait déjà pris pour quelqu'un et elle voulait en faire monnaie à une autre personne qui refuse. Vous voyez un peu comment elle pourra automatiquement refuser, prendre encore de telles monnaies usées chez quelqu'un d'autre. Donc pour faciliter, on avait déjà émis ces genres d'idées sur bon nombre d'antennes, mais je ne sais pas pourquoi la BCAO jusqu'à ce jour ne prend pas cela en compte. Je pense que c'est parce que les gens ont cette difficulté d'échanger. Or, entre-temps, la BCAO avait dit qu'il fallait regrouper ça jusqu'à, je crois, à une valeur de 50 000 pour pouvoir faire l'échange. Mais moi qui ai difficilement cette peine-là de rassembler 50 000 dollars, comment est-ce que je pourrais avoir de mon invité jusqu'à ce jour? S'il y a de ces points, je crois que ça faciliterait la tâche.
D'accord. Merci beaucoup, Joseph, merci pour cette proposition. Alors, je pense que Joseph, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Alors, cher confrère, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Et là, je vais devoir vous donner 30 secondes pour s'exprimer sur peut-être des sujets alors de votre choix pour faire le tour de table. Basile?
Oui, je prends la préoccupation du dernier auditeur qui parlait de paracétamol.
C'est avant-dernier. C'est plutôt Armand.
Ok, c'est Monsieur Armand. Pour lui dire que nous, à Santé Éducation, on ne traite pas les médicaments. Il y a le personnel que l'État a formé qui travaille sur ces molécules, dont le paracétamol. Vous savez, ces informations aussi, nous avons eu ça sur les réseaux sociaux où les paracétamol féminisaient le sexe masculin. Donc, ce sont des informations qu'on prend avec des pincettes. Vous savez, au Togo, il y a une politique de médicaments qui est là. Et ces médicaments sont contrôlés. Raison pour laquelle on évite même l'automédication. Si on t'esprit paracétamol simple, on sait qu'il y a une dose que tu ne dois pas dépasser. Mais si tu respectes ces principes, je pense que ta santé ne va pas basculer.
Oui, mais le mal souvent, c'est que ce n'est pas par prescription, même d'ailleurs.
Les gens prennent comme du bonbon. Bon, dans leur porte-monnaie, il y a paracétamol dedans, etc. Voilà. À tout bout de champ. C'est pas bien. Hein, c'est l'automédication, c'est pas bien.
C'est pas bien. Voilà. Estelle, 30 secondes.
Non, juste émettre le vœu de voir les mairies être plus rigoureuses sur les décisions là pour. Ne plus vivre de tels drames à l'avenir. En fait, quand un propriétaire de chantier ou de maison ne respecte pas les normes qu'il faut, quand ils viennent écrire arrêt des travaux pour défaut de permis de construire, il faut veiller à ce que la personne réponde à toutes les normes pour pouvoir l'autoriser à terminer. Quoi. Donc, prompte guérison aux blessés.
D'accord.
Condoléances à la famille.
D'accord. Et Sylvestre?
Non, je crois qu'il faut être dans l'anticipation parce que si vous voyez notre parution de ce matin, nous avons cité ces drames-là que nous avons enregistrés depuis 2012 à 2024. Nous avons pris soin de les citer. Nous sommes déjà au-delà. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais nous sommes à près d'une dizaine. Hein, le fondement des immeubles commence depuis le 3 octobre 2012 au 14 janvier. Hein, vous verrez qu'il y a toujours des victimes, ces immeubles-là qui s'effondrent. Mais lui, j'ai l'impression que ne prenons pas le son donc de tout ce qui se fait là. Donc, il faudrait qu'on soit plus regardant.
D'accord.
Que les mairies soient quand même des mairies dignes, quoi, avec toutes les qualités possibles. Que pas une seule personne effraie toute une mairie et puis les gens vont se caser.
D'accord. Justin?
Non, peut-être qu'il y a quelque chose à dire. C'est peut-être appeler les autorités à aider les populations sur ces problématiques de chefferie traditionnelle que nous avons, les gens qui n'ont plus tellement de pouvoir, qui n'ont pas de soutien de leur population, qui divisent les communautés avec ce qui se passe à Fiokondi là, alors que pratiquement c'est la même famille. Donc la famille Atanlé et la famille peut-être Gaosu aujourd'hui dont on parle pratiquement, c'est une question de lignée. Il va falloir aider la population qui est vent debout contre le nouveau chef là, que la paix revienne dans cette localité.
D'accord, Abbas, 30 secondes.
Oui, je dis qu'on est en train de parler des mairies. Je pense qu'il y a un processus de remplacement des maires et adjoints décédés. Il faudrait que ces maires-là, lorsqu'ils seront là, vont travailler dans l'intérêt des populations et pour que lorsqu'il y a un problème, ils puissent les régler dans les médias et qu'ils soient rigoureux. Un maire, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Il a le pouvoir décentralisé. Et pour faire arrêter un chantier, il doit s'accompagner des forces publiques. Et les forces publiques vont faire arrêter. On ne peut pas dire qu'on a fait tel et puis les gens ont refusé d'obtempérer. Et on laisse faire. Il faut arrêter ce laxisme pour l'intérêt de la population.
D'accord. Merci beaucoup, Abbas Issaka, d'être passé dans cette émission. Basile Mignaké, merci d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes alors le directeur de publication du journal Santé Éducation.
Pour ce samedi, acte 25h.
D'accord.
Pour ce samedi, 26h. Le sport.
D'accord.
Le sport national. Pour notre santé.
Essayez-vous de nous, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de publication du journal Gazelle Info. Merci d'être passé. Justement, Sylvestre Béni, merci d'être passé.
Moi.
Directeur de publication du journal La Machette, merci d'être passé. Justin Anani, merci d'être passé aussi dans cette émission. C'est journaliste freelance, merci d'être passé alors dans cette émission. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la prochaine fois. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi. On se retrouve la prochaine fois. Kiki Sosa a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. On se retrouve demain, déjà à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.